13h03 de retour dans Trudeau-Landry sur les ondes du FM 93. Jonathan Trudeau en compagnie de Jérôme Landreau. On est avec vous jusqu'à 14h30 exceptionnellement.
C'est vrai qu'il pleut pas mal dans le secteur de Val-Bélair.
Ah ouais?
Selon ce que Marie-Ève nous écrit au 25-226, c'est très couvert aussi, très gris. Là, tu sens que le temps est lourd à Québec.
Oui, ouais, non, absolument. Et c'est des orages, c'est ce qu'on annonçait toute la journée. Donc, restez avec nous. On vous a parlé, on a diffusé une partie du point de presse du ministre de la Santé, Christian Dubé, un peu plus tôt dans l'émission. On a été parlé avec le journaliste Alexis Samson également pour avoir tous les détails. Mais là, on a la chance de s'entretenir avec le ministre de la Santé. D'ailleurs, si vous avez des questions, 25-226 pour le ministre de la Santé. Christian Dubé, donc, ministre de la Santé et des Services sociaux, qui est avec nous au bout du fil. Monsieur le ministre, bonjour.
Oui, bonjour.
Écoutez, on a bien parlé de ce que vous avez annoncé. Je suis certain que vous voudrez y revenir. Bon, les axes d'intervention, les livrables, la préparation à la deuxième vague. Mais je débute sur un point en particulier qui, je sais, préoccupe beaucoup nos auditeurs parce que il y a un noyau. Il y a des gens qui disent, nous autres, le masque, on est opposés à ça, on est des anti-masques, il n'y a pas eu de première vague, etc. Je comprends que ces gens-là sont durs à convaincre, mais il y a ceux qui disent, parfait, nous, ça fait pas plaisir, mais on va se plier aux exigences, on suit les mesures qui sont édictées par la santé publique, mais qui se disent, la fin de tout ça, elle va arriver quand? Je le sais, M. Dubé, on ne sait pas encore quand il va avoir un vaccin et tout, mais est-ce que dans vos cartons, vous êtes capable de nous dire, on a établi des balises, là, et le jour où il y aura tel élément qui vont se réaliser, on pourra commencer à jeter du lest. Est-ce que vous avez ces informations-là?
Alors, on n'a pas cette information-là, M. Trudeau, parce que je pense premièrement qu'on n'est pas rendu là. Moi, je suis plus en train de me préparer pour une deuxième vague, pour un déconfinement total, pour être honnête. Quand, on a beau avoir quand même des bonnes statistiques ces temps-ci. Là, vous avez vu, on a baissé le nombre de cas quand même à tous les jours. Mais j'ai quand même aujourd'hui enregistré, malheureusement, et c'est triste, là, 6 décès dans les derniers jours. Alors, le virus, il est encore avec nous. Fait que je comprends la population, puis moi, quand je parle à ma famille, puis je parle à mes enfants, ils me disent tout, pas quand est-ce que ça va finir? Ouais, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Et j'aime mieux être très honnête avec vos auditeurs, puis de leur dire, écoutez, la bonne nouvelle en ce moment, c'est que tous les sacrifices qu'on fait, de porter le masque, de tout faire ce qu'on fait qu'on contrôle le virus. Le virus, il est avec nous. On a pris beaucoup d'expérience parce que quand il y a des éclosions, nos spécialistes, notamment de la santé publique, sont capables de mieux suivre les contacts. On a une bonne collaboration de la population, mais pour vous dire honnêtement, là, on n'est pas rendu encore à penser quand est-ce que ça va être terminé. Ce qu'il faut s'habituer, c'est à vivre avec. Puis là, on a réussi à déconfiner, à avoir des inconvénients comme le port du masque, la distanciation. Mais on est quand même un certain retour à la vie normale. Moi, mon plus grand souhait, c'est qu'on soit capable de retrouver nos écoles, que nos enfants puissent recommencer à l'école pour le bien-être de tout le monde, incluant les parents, et qu'à ce moment-là, on va être capable, là aussi, de contrôler. Il y aura peut-être une petite éclosion à un endroit ou l'autre, parce que des fois, on s'échappe, des fois, on... Mais je vous dirais que il faut être capable de recommencer à vivre, mais en respectant ces consignes.
Concrètement, M. Dubé, de quoi on parle quand on parle de deuxième vague? Avez-vous des scénarios? Est-ce que les experts vous donnent certains scénarios? Parce qu'il y a des régions comme ici à Québec, je me demande s'il y a vraiment eu une première vague. Là, dans le Bas-Saint-Laurent, même affaire. C'est... On parle de quoi exactement? Est-ce que c'est bon le retour des températures plus froides qui va donc créer un contexte plus favorable au virus? De quoi on parle exactement? C'est quoi les scénarios?
Ben, c'est une bonne question, M. Landry. Comparons ça peut-être, vous savez, là vous me parlez de donc Québec versus Montréal ou Sherbrooke ou la Gaspésie, mais tout le monde à quelque part à un moment donné pogne une grippe. Hein. Alors donc, c'est pas juste parce que à date on a eu plus de décès à Montréal pour une foule de raisons, dont notamment les CHSLD, là, mais cet enjeu-là, il peut se produire à Québec, il peut se produire à Sherbrooke. Et moi, ce que je vois, puis je vous donne juste un exemple, là. En France, il y a quelques semaines, ces gens-là roulaient à quelques centaines de cas par jour. Hier, il était à plus de 3000 cas. Et ça s'est fait dans une dizaine de jours, cette augmentation-là. Alors, le problème avec ce virus-là, c'est que tant qu'on est capable de le contrôler, on est correct. Mais la minute qu'il s'installe puis que l'éclosion se fait, mais là, c'est 10 personnes, c'est 100 personnes, c'est 1000 personnes. Alors, moi, ce que je dirais, pour me demander la deuxième vague, elle a l'air de quoi? dans le l'air de ce qui se passe en France en ce moment, dans le l'air de ce qui se passe en Angleterre. Puis là, ils sont obligés de repenser à dire, ben, écoutez, la France avait ouvert les frontières il y a 3 semaines. Ils ont annoncé qu'ils refermaient les frontières. Alors, c'est un peu tout ça que je vous dis, c'est qu'on n'est pas rendu à regarder l'autre côté de la montagne. Il faut juste être sûr qu'on monte la montagne tranquillement. Puis on contrôle le plus possible ce virus-là.
Au printemps dernier, M. Dubé, il y a eu des mesures qui étaient différentes selon les régions, des régions qui ont carrément été bouclées. On voulait éviter que le virus se propage d'une région à une autre. Et là, il y a des gens qui se disent, ben justement, si on veut maintenir l'adhésion la plus large possible de la population aux mesures qui sont mises de l'avant par le gouvernement, pourquoi on serait pas capable d'adapter encore là certaines mesures comme le port du masque dans les écoles primaires, par exemple, ou même dans les écoles secondaires ou dans certains commerces selon la réalité des régions? Parce que la réalité de l'Abitibi n'est pas la même réalité que Montréal ou de la région de Québec ou de la Gaspésie, par exemple.
C'est un très, très bon point. Je l'ai dit ce matin, peut-être que vous n'avez pas entendu en point de presse, là, mais... Il y a beaucoup d'inexpérience qu'on avait de la première crise, de la première vague, où on a fait des règles qui s'appliquaient globalement au Québec. Hein? On avait dit. Je pense que là, on va être, je ne vais pas faire de jeu de mots, là, mais on va être beaucoup plus chirurgical dans le domaine de santé. Là. On va être capable de dire, écoutez, tant qu'il ne se passe rien en Abitibi ou tant qu'il ne se passe rien à Québec, on n'ira pas... confinés ou on n'aura pas fermé des lits d'hôpitaux pour être capable. Prenons cet exemple-là. On a fermé 6 000 lits d'hôpitaux parce qu'on ne savait pas où est-ce que ça allait frapper, puis on voulait être certain que si les gens rentraient, qu'ils étaient bien servis. On ne fera pas de la même façon cette fois-ci. On a fait un plan avec 4 phases, puis on a regardé en fonction de ces phases-là, si ça arrivait dans une région, prenons Montréal ou on va dire le centre-ville, c'est quoi nos 3-4 hôpitaux sur lesquels, là, on va faire un délestage spécifique à ces 4 hôpitaux-là, mais en même temps, peut-être que sur la rive sud, on va être capable de dire, vous n'avez pas à le faire tout de suite, continuez à faire vos opérations, continuez à baisser vos listes d'attente. Donc, cette expérience-là qu'on a pris de la première vague, on s'en sert pour faire, là, c'est un exemple que je vous donne, c'est le délestage autrement, mais ça s'applique à plusieurs cas comme ça qu'on peut être beaucoup plus précis par région.
Monsieur le ministre, on en est où actuellement avec le principe de l'immunité collective? Ça, on lit toutes sortes d'affaires, on entend toutes sortes de choses là-dessus. Je pense qu'il est loin d'être certain que quelqu'un qui l'a contracté développe une immunité. Je pense qu'on n'est pas certain de ça, mais on en est où aujourd'hui là-dessus, le 18 août? Parce qu'à quelque part, on pourrait se dire, la région de Montréal a peut-être développé ça un peu, on ne l'a pas développé à Québec parce qu'il y avait très peu de cas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus aujourd'hui, monsieur le ministre?
Ben écoutez, je pense que vous parlez pas aux bons experts, parce que moi, j'écoute beaucoup ce que la santé publique me dit, mais je lis beaucoup sur ce qui s'écrit à l'international, la recherche. Puis je vous donne un exemple. Lorsque EMA Québec a fait le test il y a quelques semaines, ils sont arrivés puis ils ont regardé, ils ont dit, peu importe qui a été testé, là, basé sur les prises de sang qu'on a vues au niveau sérologique, ces gens-là ont été capables de dire qu'il y avait un équivalent d'à peu près 3 % de la population qui avait contracté le virus. C'est quand même pas beaucoup, ça.
Non.
Comparativement à ceux qui ont été testés positivement, qui est plus dans l'ordre de 1-1,5 %. Fait que je pense qu'il n'y a pas encore assez de données, malheureusement, pour dire que est-ce qu'il y a une immunité collective, un peu comme certains ont pensé dans certains pays scandinaves, là, que c'était la meilleure façon de faire. Puis ils sont revenus en arrière. Alors, je pense les gens n'aimeront pas ma réponse, mais on n'a pas cette information-là parce qu'il y a encore des débats à savoir si le virus peut donner, une fois qu'on l'a contracté, l'immunité.
Il y a beaucoup de gens, M. Dubé, qui sont capables de vivre avec les mesures actuelles, mais qui font pratiquement, j'exagère, mais pas pratiquement des cauchemars la nuit à l'idée de revenir au confinement total, complet. La fermeture du Québec, le Québec sur pause qu'on a vécu au mois de mars, avril. Je sais que ce soit vous, Dr Arruda, vous avez tendance à dire aux Québécois, bon, certains n'aiment pas ça, ils ont l'impression de se faire donner la leçon, mais dire aux Québécois, écoutez, soyez disciplinés parce qu'on voudrait pas vous enlever des libertés qu'on a redonnées parce que on n'est pas assez discipliné. Donc, il y a ce message-là. Mais sur le fond, est-ce que vous êtes capable de garantir aux gens d'exclure qu'un confinement total, complet, comme on a vécu, pourrait être réimposé au Québec?
Bon, moi, je n'irai pas garantir qu'il n'y aura pas de confinement. Mais il y a une chose que je veux dire aux gens, c'est qu'on ne veut pas aller là. Bon, si on ne veut pas aller là, c'est ensemble qu'on va le faire. Puis je vous dis, là, quand je vois encore des gens qui font des parties, quand je vois des gens qui font des baptêmes, qui font des mariages, je regarde là, toutes les listes que M. Arruda me demande, me présente à chaque matin pour dire, là, j'ai une petite éclosion de 10 personnes. Des fois, c'est à Québec. Des fois, c'est à Saint-Jean-Vite. Vous me suivez? Moi, je suis bien plus préoccupé que les gens disent, écoutez, il n'y a personne qui veut retourner en confinement. Nous, on a donné des règles très strictes comment on va s'assurer que ça ne reparte pas. Mais c'est les gens qui l'ont entre les mains. C'est chacun qui dit, ouais, ça serait tentant d'inviter 20 chums pour ma fête, mais je peux-tu me limiter à 10? Je vais donner l'exemple, puis je vais porter mon masque le plus souvent possible, et c'est comme ça qu'on retournera pas dans un confinement. Puis moi, c'est pour ça qu'on martèle. Je pense qu'à date, vous avez raison, les Québécois, là, ils sont peut-être tannés, mais ils ont été exemplaires. Là, on s'ordonne. Moi, je veux me rendre jusqu'en décembre. Moi, je regarde ça là par bloc de 4 mois. Il faut qu'on réussisse notre entrée scolaire pour que les parents soient contents. Réussissons la rentrée scolaire. Réussissons à avoir des fois des blocs où on a eu des éclosions pour qu'on a réussi à les contrôler. On a fait quelques fois là, dans 3 ou 4 établissements. Puis je pense que les gens vont gagner confiance que on regardera après les fêtes où on est rendu, comment l'influenza est venue se combiner avec ça. Il y a beaucoup d'incertitudes, mais je pense que nos Québécois nous ont montré qu'on était capable de le faire. Puis moi, je suis confiant. Je suis confiant qu'on ne retournera pas là.
On a vécu le printemps avec ça, mais pas l'hiver encore, puis un début d'hiver. Donc, est-ce que je dois comprendre qu'au 31 décembre, on risque de tout réévaluer, incluant, par exemple, le port du masque obligatoire dans les lieux publics, M. le ministre?
Ben, écoutez, M. Landry, moi, j'aime mieux y aller par rotation, là. Je vous dis, rendons-nous jusqu'au 31 décembre. Montrons comment on est capable de, comme dirait notre docteur Arruda, d'aplatir la courbe. Vous avez vu, elle avait commencé à remonter il y a 3 semaines, puis on a réussi à l'aplatir. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde. Il faut garder ça, puis il faut garder ça quand les écoles rouvrent dans 2 semaines. Si on est capable de faire ça, quand vous me rappelez, là, dans 2-3 semaines, on va voir où on est rendu. Mais il faut réussir notre entrée scolaire. Moi, c'est ma grande priorité.
Parlant d'entrée scolaire, je vois beaucoup de messages qui rentrent au 25-226 des auditeurs qui se posent la question par rapport à la gestion du petit nez qui coule, Monsieur Dubé, ouais. Parce qu'on a vu, il y a eu des cas dans des CPE, par exemple, d'enfants qui toussaient puis qui ont des tests négatifs, mm-hmm. Puis on leur refuse l'accès. Mais là, avec la rentrée scolaire, on va être témoin de tous ces petits rhumes-là qui vont créer la panique. T'sais, quel est le message que vous envoyez? Parce que je comprends qu'on va vouloir être prudent. En même temps, il faut que ce soit gérable. Il ne faut pas tomber dans la paranoïa excessive. Là.
Je pense que la meilleure chose qu'on va s'assurer, là, c'est que à chaque école, les parents vont avoir le droit de demander à se faire tester. Je pense que je sais que ça peut sembler là, irréaliste, mais en ce moment, vous avez vu, on a eu des journées à peu près 18 000 tests. Moi, je voudrais qu'on soit capable de, et c'est ce que j'ai demandé à ma sous-ministre, là, d'augmenter notre capacité de test. Est-ce qu'on va faire des ententes avec des GMF, des cliniques médicales, etc., avec les pharmaciens? On est en train de tout faire ça pour faciliter aux parents, avec leurs enfants, d'avoir des corridors de service, pour être capable de faire tester. La première chose, quand un parent a des doutes, c'est qu'il appelle le 1-877. Le 1-877, ça va le mettre en contact avec une infirmière ou une personne qui va discuter avec le parent ou avec l'enfant s'il est assez grand pour dire voici c'est quoi mes symptômes. Puis en cas de doute, il va vous dire regardez, vous pouvez aller vous faire tester à tel endroit. Et à ce moment-là, les parents vont être rassurés. Mais le 1-877, ça va être la façon. Nous, ce qu'on travaille en ce moment, c'est d'avoir plus de cliniques pour être capable que les parents puissent se faire tester rapidement puis avoir leurs résultats rapidement.
OK. Sauf que là, la une du devoir ce matin, M. Dubé, c'était des enfants qui avaient même testé négatif, qui étaient refusés dans des garderies. Avez-vous aujourd'hui ou allez-vous donner des directives claires de réintégrer ces enfants-là? Parce que c'est à partir du moment où le test est négatif, je pense que ces enfants-là devraient pouvoir retourner en garderie. Là.
Tout à fait. Non, c'est exactement ça. Puis c'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait des hôpitaux, j'ai dit il faut que les règles soient claires. Là, si un enfant a été testé négatif pour pouvoir retourner. Ouais. Comment on va faire dans ces classes-là pour que ces enfants-là puissent avoir leur école. Ça, c'est au ministre de l'Éducation, mais je vous dis, on va s'assurer qu'une fois qu'ils ont été testés et qu'ils sont négatifs, okay, ils peuvent retourner
ça
à l'école.
Ça va se faire aujourd'hui, ça, parce que présentement, je pense que les parents ont hâte que les enfants puissent y retourner. Avez-vous fait ça aujourd'hui ou allez-vous le faire aujourd'hui?
Ben, on est là-dedans, M. Landry, en ce moment-là. Je pense que M. Roberge, quand il a déposé son plan, il a fait sa mise à jour hier. Et là, dans les prochains jours, il est en train de s'assurer que ces directives-là, un peu ce que moi je fais avec les PDG de CIS puis CIUS, lui, il fait avec les directeurs d'école en ce moment. Parce que c'est pas rien que d'envoyer une directive aux directeurs d'école. Il faut aller l'expliquer puis donner du détail. C'est un peu ce que Jean-François Roberge, en ce moment, fait avec les directeurs d'école. Moi, je fais la même chose. Il faut être sur le terrain puis expliquer à nos gens qu'est-ce qu'on voulait dire par ça, parce qu'il faut donner des cas pratiques, exactement comme vous m'avez donné. Là.
Le temps file, M. Dubé. Je vais absolument vous poser une question sur l'imputabilité. Vous êtes revenu beaucoup là-dessus dans votre conférence de presse, ouais, dans votre plan. Vous voulez que les gens soient imputables, répondent de leurs gestes. Ça, c'est le côté gestionnaire en vous dont tellement de gens ont parlé. Donc, premièrement, l'imputabilité, c'est quoi pour vous? Et est-ce qu'il y a de l'imputabilité rétroactive? Quand on regarde ce qui s'est passé au cours des derniers mois, est-ce qu'il y a des gens qui vont, j'aime pas employer le terme payer, mais qui vont être répondre des gestes ou des non-gestes qu'ils ont posés?
Ben écoutez, le mandat que M. Legault m'avait donné, c'était pas vraiment de trouver des coupables, mais de m'assurer que ces gens-là, un, avaient les outils. Je dois vous dire que des cas où on a vu, c'était bien souvent parce que les gens voulaient bien faire, mais qu'ils n'avaient peut-être pas une compréhension de ce que ça impliquait. Tantôt, l'exemple que vous me donniez dans la mobilité de main-d'œuvre, mais les gens disaient, ben, au lieu d'avoir une rupture de service, ben, j'aime mieux envoyer quelqu'un que je suis pas sûr s'il est contaminé. Mais c'était pas le bon choix à faire. Mais dans ce temps-là, les règles étaient pas claires. Je pense que maintenant, ce qu'on a fait, puis c'est vraiment ça qui est ma tâche, moi, c'était de m'assurer c'est quoi les rôles, qui est responsable, quelles sont les règles qu'on doit suivre. Puis là, dans les prochaines semaines, ben, si à ce moment-là, il y a des PDG, des cadres intermédiaires qui ne respectent pas les règles, on a vu là, il y a deux jours, c'est hier ou avant-hier, une infirmière qui n'a pas respecté les règles, mais là, elle a été mise sur pause pendant trois jours parce qu'on veut voir exactement qu'est-ce qui est arrivé. Puis il y a des gens qui perdront leur emploi parce qu'ils n'ont pas respecté les règles. Mais il fallait au moins que les règles soient claires. Alors, donc, on est là, en ce moment-là.
On va suivre ça de près. Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux, merci d'avoir pris le temps.
C'est un plaisir, messieurs. Merci beaucoup.
Merci. Au revoir.
Il y a beaucoup de questions, là. Écoute, évidemment, on aurait pu avoir des questions pendant trois
heures. Beaucoup de bonnes questions, ben oui.
Des bonnes, oui.
Vraiment des bonnes questions des auditeurs.
Vois-tu aussi, Nico me dit, est-ce qu'on peut penser, évidemment, Nico qui pense au Festival d'été déjà 2021. Ouais. Nico m'envoie la question, est-ce qu'on pourrait penser, par exemple, à un Festival d'été en 2021 avec le port du masque? OK. Personnellement, je vais vous donner mon opinion à moi. Moi, je serais très surpris. Pour vrai, là, on est déjà rendu presque en septembre 2020. Je le souhaite, là, mais ça me surprendrait. Mais j'ai retenu une chose de ce qu'il nous a dit, puis je ne sais pas s'il l'avait déjà dit. Moi, je ne l'avais pas entendu. C'est le 31 décembre, là, il y a beaucoup de choses qui vont être évaluées. À la période des fêtes, puis j'ai l'impression que, tu sais, le port du masque, entre autres, là, dans les écoles, le port du masque dans les commerces, ça va faire partie de ça, mais l'automne, le début de l'hiver, on l'a pas vécu. T'sais, le printemps, c'est pas la même chose que l'hiver. C'est pas exactement la même façon de gérer ça. C'est pas la même propagation. Ça, c'est une réalité, là. On l'a pas connu encore, ce virus-là, en hiver. L'hiver québécois, il est tough, on est enfermé. Ça va être un défi.
Dans le temps des fêtes.
Mais c'est ça. Mais retenez ça. 31 décembre, on va réévaluer bien des choses par rapport à la pandémie.
Parce qu'il a été quand même assez candide, honnête, le ministre. La première question que je lui ai posée sur avez-vous des indicateurs? Êtes-vous capable de nous dire quand est-ce que tout ça va arrêter? Et il a dit non. Pour l'instant, on ne le sait pas. Par contre, j'apprécie le fait qu'ils disent, nous autres, c'est clair, on s'embarque là-dedans pour un an, pour deux ans. Ouais. Non, 31 décembre, il va réévaluer. Tu vois, le ministre Robert nous avait dit pas avant juin, que là, ce qui était mis en place, c'était pour juin. En même temps, j'imagine que si la santé publique est prête à jeter du lest, le ministre de l'Éducation va dire, parfait, j'embarque. Mais au moins, en décembre, fin décembre, début de l'année, ils vont être prêts à réévaluer tout ça.
Puis moi, l'autre affaire, ça, ça reste en suspens, Joe, c'est que, puis j'en parle souvent de ça, puis c'est que j'aimerais comprendre ce qui s'en vient, mais je pense que même les experts comprennent pas c'est tout ce qui touche à l'immunité collective. Puis il parlait du 3%, mettons en France avec les tests sérologiques, 3% des Français qui ont été atteints. Pour avoir une immunité, pour la développer, ça prend beaucoup plus de cas que ça. Mais là, avec le coronavirus, s'il y a beaucoup de cas, il y a nécessairement beaucoup de décès. Souvent, ça va être des gens âgés. Puis c'est des vies humaines aussi, cela. C'est ça qui est difficile quand on parle d'immunité collective, parce qu'actuellement, c'est sûr qu'il n'y en a pas. T'sais, Québec, ça doit être quoi? Je pense que c'est moins de 1% ici à Québec.
Non, c'est sûr.
De gens qui l'ont, qui ont contracté ça. Fait qu'oublier l'immunité collective. Si ça frappe, ça peut frapper fort. Là.
Absolument, absolument. Beaucoup de gens. Tu sais, il y a des gens qui sont insatisfaits, qui aiment pas le ministre, mais la teneur des commentaires, des questions 25226 là, très apprécié. Je trouve les gens sont constructifs, ont des craintes, oui. Ont des interrogations. En même temps, on pose des questions au ministre. Je comprends que les réponses ne font pas toujours notre affaire, mais le ministre Dubé qui a pris quand même une vingtaine de minutes. Bon, pour répondre à nos questions, qu'est-ce que vous en pensez? 25 226 les 13h24. On fait une pause et on vient.